بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va prendre quelques minutes, inshallah, pour continuer dans notre cours de Kitab al-Tawhid, le sharh de Kitab al-Tawhid. Et c'est l'explication du sharh de Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, de Sheikh Saleh al-Fawzan. Donc le sharh de Sheikh Abdurrahman ibn Hassan qui s'appelle Qurrat Uyun al-Muwahidin, avec les commentaires de Sheikh Saleh al-Fawzan dans son sharh de ce livre, Al-Ta'liq al-Mukhtasar al-Mubin. Et on est arrivé maintenant au deuxième chapitre, Babu Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-Dhunub. Et Sheikh al-Fawzan, il fait un commentaire par rapport au titre de ce chapitre. Qu'est-ce que ça signifie, Babu Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-Dhunub? Ça signifie le chapitre au sujet du mérite du tawhid et ce que le tawhid expie comme péché. Et Cheikh Al-Fawzan il dit: لما فارغ المؤلف رحمه الله من بيان التوحيد في الباب الأول ومن تفسير التوحيد على ضوء الآيات القرآنية والحديث النبوي ذكر في هذا الباب فضل التوحيد والترتيب بين هذين البابين بذكر تعريف التوحيد أولا ثم فضله ثانيا من أبدع ما يكون، لأنه لو بدأ بذكر فضل التوحيد قبل أن يبينه ويفسره ما حصل المقصود، فلا بد من بيان الشيء أولا ثم بعد ذلك يذكر فضله لتحصل الفائدة بذلك. Donc Cheikh dit, après que l'auteur ait terminé d'expliquer le tawhid dans le premier chapitre, c'est-à-dire d'avoir mentionné sa définition et d'expliquer ce qu'il signifie, à la lumière des versets du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le premier chapitre, donc maintenant, le deuxième chapitre, il va expliquer le mérite du tawhid. Et le fait d'avoir ordonné les choses de cette façon, le premier chapitre au sujet de la définition, puis le deuxième chapitre au sujet de son mérite, eh bien, c'est une des choses les plus bénéfiques et les plus bien organisées, les plus bien pensées. Pourquoi? Parce que si le cheikh avait commencé par le fait de mentionner son mérite en premier, avant de l'avoir défini, avant de l'avoir expliqué, eh bien, on ne serait pas arrivé à l'objectif voulu. Toutefois, le fait de l'avoir expliqué en premier, puis ensuite d'avoir mentionné son mérite, eh bien là c'est comme ça qu'on arrive à ce qui est bénéfique. Et donc il dit ensuite: قوله باب فضل التوحيد أي ثوابه وأجره وما يكفر من الذنوب أي وبيان ما يكفر من الذنوب بسبب التوحيد فالتوحيد يكفر الله به الذنوب التي دون الشرك ولو عذب بها فإنه لا يخلد في النار فهو إما أن يسلم من النار نهائيا وإما أن يسلم من الخلود فيها وهذا فضل التوحيد أما المشرك والعياذ بالله فإنه لا طمع له في الجنة لأن الله عز وجل حرمها عليه ومأواه النار ولا طمع له في الخروج منها فقارن بين فضل التوحيد وخطر الشرك فترى العجب العجاب ألا يحق لعلم هذا فضل ألا يحق لعلم هذا فضله أن يعتنى به وأن يدرس وأن تعرف تفاصيله حتى يكون الإنسان من أهله فيحوز هذه الفضائل العظيمة فالتوحيد جدير بالعناية لأنه هو الأصل وهو أساس السلامة من عذاب الله عز وجل والفوز بالجنة. Donc on va commencer par expliquer cette explication du titre. Le cheikh il explique que le mérite du tawhid, c'est-à-dire sa récompense. Et qu'est-ce que le tawhid expie comme péché? C'est-à-dire l'explication de ce qui est expié de nos péchés à cause du tawhid. c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Cheikh explique que le tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés d'une personne à cause de sa foi en l'unicité et de son application de ce qu'implique le tawhid d'Allah et l'unicité d'Allah. Et c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va effacer ou pardonner à une personne qui est sur le tawhid tout péché qui est moindre que le shirk. Et il dit que même si une personne serait châtiée, par exemple, si une personne entrerait parmi une personne qui est musulmane et qui est sur le tawhid, qui n'a pas fait de shirk avec Allah, et qui serait châtiée dans l'enfer à cause de ses péchés, elle ne serait pas éternellement châtiée dans l'enfer parce qu'elle a cru en le tawhid, elle a cru en l'unicité d'Allah. Donc elle est sauvée du châtiment éternel de l'enfer. Même si elle entre en enfer, elle ne va pas y demeurer éternellement. Donc le cheikh, il résume ça en disant que c'est soit que la personne soit sauvée du feu complètement, dans le sens qu'elle ne va jamais y entrer, ou soit qu'elle va être épargnée du châtiment éternel de l'enfer. Et ça fait partie des mérites du tawhid. Tandis que le mushrik, c'est-à-dire celui qui a commis le shirk majeur et qui est mort sans s'en repentir, que Allah nous en préserve, eh bien lui, il n'a aucun espoir d'aller au paradis. Il n'a aucun espoir d'aller au paradis, puisque Allah subhanahu wa ta'ala interdit le paradis à celui qui est mushrik. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ » Donc, quiconque fait le shirk avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit le paradis. Et sa destination finale, c'est l'enfer. Son refuge, c'est l'enfer. Donc, il n'a aucun espoir de rentrer au paradis et il n'a aucun espoir de sortir de l'enfer une fois qu'il y est rentré. Et donc, si on compare si on associe le mérite du tawhid et le danger du shirk, et on regarde ces deux choses-là ensemble, on voit quelque chose d'étonnant et quelque chose donc qui nous fait comprendre l'importance de ce sujet-là. Et donc, quiconque désire obtenir ce mérite, eh bien, ne mérite-t-il pas de donner à ce sujet-là son importance et de l'étudier et de l'apprendre correctement et de connaître les détails de ce qui concerne ce sujet pour finalement faire partie des gens qui croit au tawhid et le mettre en application pour faire partie des gens du tawhid pour obtenir justement les mérites et les grâces qui sont reliées à cette question et à ce sujet. Et donc le tawhid, c'est quelque chose d'extrêmement important et le musulman, il doit y donner toute son importance parce que c'est le fondement, c'est la base même de l'islam. Et c'est le fondement du fait d'être, pour être sauvé de l'enfer et pour être sauvé du châtiment d'Allah et pour obtenir le paradis, c'est la base. Donc celui qui n'a pas de tawhid, il ne peut pas être épargné du châtiment d'Allah. Le cheikh il dit ensuite, فَقَوْلُهُ وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الذُّنُوبِ مَا مَصْدَرِيَّةِ تُفَسَّرْ وَمَا بَعْدَهَا بِمَصْدَرْ والتقدير وتكفيره الذنوب باب التوحيد وتكفيره الذنوب. Donc il explique que c'est pour dire que le tawhid il expie les péchés, le tawhid il explique les péchés. Il mentionne des notions grammaticales pour clarifier cette signification là. Ensuite il commence à expliquer les définitions qui sont mentionnées dans les versets et les hadiths que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans le livre. Et le cheikh, il a commencé par le fait de mentionner un verset qui est le verset 82 dans sourate Al-An'am. Wa qawlu Allah ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas couvert leur foi d'injustice. Et on va expliquer le détail à ce sujet-là. Mais avant ça, on va continuer l'explication maintenant de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Comment il a expliqué cette introduction ou bien ce titre. Et on va lire les commentaires de Cheikh Al-Fawzan ensuite. الشيخ الزي هو المدخل إلى الشيء، باب، الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء. Donc il explique la définition du mot bab en arabe. On traduit en français par chapitre. Et en arabe, chapitre, c'est bab. Bab, pour dire, c'est, si on traduit littéralement, ça veut dire la porte. Donc c'est défini, le cheikh dit, c'est l'entrée dans une chose. Donc quand on dit chapitre, en réalité, c'est pour expliquer qu'on rentre dans un autre sujet, dans un nouveau sujet. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, وَيَكُونُ حِسِّيًا كَمَدْخَلِ الْبَيْتِ وَمَدْخَلِ الْمَسْجِدِ وَيَكُونُ مَعْنَوِيًا كَبَابٍ مِنَ الْعِلْمِ وَسُمِّيَ بَابًا لِأَنَّهُ يُدْخَلُ مِنْهُ إِلَى الْعِلْمِ وَكَذَلِكَ الْمُؤَلَّفَاتِ تَشْتَمِلُ عَلَى كُتُبٍ وَأَبْوَابٍ وَفُصُولٍ وَمَسَائِلِ لأن هذا أسهل في طلب العلم والحاصل أن الباب في العلم هو المدخل المعنوي إلى ما بعده من أنواع التفاصيل المذكورة فيه. Donc le cheikh il explique que la porte, quand on le prend dans son sens concret, eh bien c'est la porte d'une maison, la porte de la mosquée, et dans son sens abstrait, c'est plutôt comme par exemple l'entrée dans une science. Et on l'appelle bab en arabe pour dire que c'est ceci qu'on rentre dans la science. Et c'est pour cette raison que les écrits et les ouvrages des savants comprennent des livres, des chapitres, des sections et des questions et des sujets. Et la raison de ça, c'est parce que ça facilite la quête du savoir et l'apprentissage et la quête de la science. Puisque si tous les sujets sont mélangés et qu'on mélange toutes les choses du début à la fin d'un livre et qu'on les sépare pas et on les classifie pas, mais ça devient compliqué. Une fois qu'on les a organisés, on a organisé la science dans le livre et on a séparé les sections et organisé les chapitres, eh bien, la quête du savoir devient plus facile. Et donc, c'est ce que le cheikh explique ici. Ensuite, il dit وَقَوْلُهُ وَمَا يُكَفِّرُ مِنَ الذُّنُوبِ مَا مَصْدَرِيَّ أي وَتَكْفِيرُهُ الذُّنُوبِ. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? لَيْسَتْ مَوْصُولَ لَيْسَتْ مَوْصُولَ وَإِنَّمَا هِيَ مَصْدَرِيَّ وَتُؤَوَّلُهِيَ وَمَا بَعْدَهَا بِمَصْدَرِ. Donc ça, comme j'avais expliqué, c'est des explications grammaticales, on ne va pas traduire les détails de ça, mais l'important de comprendre, c'est qu'est-ce que le tawhid peut expier comme péché. Et il dit, وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ مَوْصُولَ وَالْعَائِدُ مَحْذُوفُ أَيْ وَالَّذِي يُكَفِّرُ مِنَ الذُّنُوبِ. Donc ça aussi, encore, c'est des explications grammaticales. Ça peut vouloir dire aussi le tawhid et ce qu'il expie comme péché. والمراد للشيخ الزي يجوز أن تكون ما موصولة بمعنى والذي والعائد وهو الضمير محذوف تقديره هو أي والذي يكفر هو لأن يكفر فعله يحتاج إلى فاعل وهو الضمير هو. Donc encore des explications grammaticales, donc on va pas traduire tout ça en français. Le cheikh dit والذي يكفر من الذنوب الذي والمراد بالتوحيد توحيد العبادة. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par le tawhid? C'est le tawhid dans l'adoration. Le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans le fait de l'unifier dans son adoration. Et Cheikh Al-Fawzan, il clarifie ça en disant وهو توحيد الألوهية لأن الذي يكفر الذنوب ويخرج من الكفر ويوجب دخول الجنة هو توحيد الألوهية وهو الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وهو توحيد العبادة أما توحيد الربوبية فإنه مركوز في الفطر لا يكفر الذنوب ولا يخرج من الكفر فالاقتصار عليه لا يحصل به المقصود لأن المشركين كانوا يقرون به فلم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام. Donc le cheikh Al-Fawzan, il explique que le tawhid de l'adoration, c'est le tawhid ou c'est la catégorie de tawhid qui expie les péchés et qui fait sortir de la mécréance et qui fait qu'une personne puisse entrer au paradis. Donc c'est le tawhid dans l'adoration. le fait de rendre notre adoration exclusive à Allah, hein, et de rejeter et de renier tout ce qui est adoré en dehors de lui. Tandis que, il dit aussi que c'est cette catégorie de tawhid avec laquelle Allah a envoyé tous les messagers et pour laquelle Allah a fait descendre tous les livres. Donc c'est le tawhid dans l'adoration. Et comme on le sait déjà, parce qu'on l'a expliqué déjà dans les cours précédents, le tawhid, il y a trois catégories. Tawhid al-rububiyya, wa tawhid al-uluhiyya, wa tawhid al-asma'i wa sifat. Le tawhid al-rububiyya, c'est l'unicité d'Allah dans la seigneurie et dans le fait que c'est le seul maître et le seul créateur. Et al-uluhiyya, tawhid al-uluhiyya, c'est le fait d'unifier Allah dans l'adoration. Et tawhid al-asma wa sifat, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Donc, le tawhid avec lequel Allah a envoyé les messagers et pour lequel il a fait descendre tous les livres et qui va te sauver, hein, du châtiment et qui va expier tes péchés et qui va te faire sortir du kufr, de la mécréance, c'est le tawhid dans l'adoration en particulier. Et il explique que en ce qui concerne le tawhid dans la rububiyya, le fait de croire que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul maître, le seul créateur, le seul pourvoyeur, le tout-puissant, celui qui fait vivre et qui fait mourir, celui qui donne à toute créature sa subsistance, cet aspect du tawhid, elle est inscrite dans la fitra, dans la nature profonde de chaque homme, de chaque femme. Et personne ne peut la renier, même si certains parmi les athées, par exemple, renient Allah subhanahu wa ta'ala et son existence, c'est uniquement, comme les ulama l'ont expliqué, c'est uniquement par arrogance. Ils le renient seulement avec la bouche, mais au fond de leur cœur, au fond de leur âme, ils savent très bien que Allah subhanahu wa ta'ala existe et que c'est lui le seul créateur. Mais c'est l'arrogance et l'orgueil qui les fait refuser de le déclarer ou de le dire ouvertement. Tandis que la personne qui a cru donc en ar-rububiyya, hein, étant donné que c'est quelque chose qui est connu, qui est quelque chose qui est inscrit dans la fitra, elle n'expie pas les péchés. Et si quelqu'un a cru en la rububiyya sans croire en al-uluhiyya, il ne sort pas du kufr. Et il dit que de croire en la rububiyya tout seul, le tawhid de la rububiyya seulement, eh bien, c'est pas suffisant pour devenir musulman ou pour être considéré comme étant musulman, parce que même les idolâtres à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de Quraysh par exemple qui adoraient les idoles, ils reconnaissaient l'existence d'Allah et ils croyaient même en le fait que Allah est unique, hein, et que c'est lui le créateur, et cela ne les a pas fait rentrer en islam et cela ne les a pas ne leur a pas profité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appliqué ou établi l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et la preuve de ça, c'est dans plusieurs versets dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard, la yaqulunna Allah. » Si tu leur demandes aux mushrikins qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc le fait d'avoir dit que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, c'est pas suffisant pour eux et ça les fait pas devenir musulmans parce que ils continuent quand même d'adorer d'autres que Allah en même temps qu'ils affirment qu'il est le créateur. Donc, celui qui adore d'autres que Allah, il est mushrik, même s'il croit que Dieu est unique. Et donc, c'est pas suffisant juste de croire en la rububiyya. Il faut croire en l'unicité d'Allah dans al-ibadah pour que notre tawhid soit valable. Et donc le cheikh, il continue, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit « Wa huwa ifradullahi ta'ala bi anwa'il ibadati al-batina wal-zahira kad-du'a wal-zabh wal-nazr wa ghayri dhalik. » Donc le cheikh, il explique que le tawhid de l'adoration, c'est d'unifier Allah et de rendre l'adoration dans toutes ses formes, que ce soit apparente ou intérieure ou extérieure, apparente ou cachée, pour Allah seul, et de rendre les adorations exclusives à Allah. Et il mentionne quelques exemples d'adoration, comme par exemple le dua. Hein? Si tu fais un dua, tu ne dois pas invoquer autre que Allah. Contrairement à ceux, par exemple, qui vont faire des duas à des prophètes, ou à des anges, ou à des djinns, ou à des saints, ou à des tombes, ou à yani, d'autres créatures ou d'autres choses. Donc ça représente une forme de shirk. Le fait de faire des sacrifices hein, pour autre que Allah, de faire des vœux pieux pour autre que Allah, donc tout ça, ça représente des formes de shirk qui sont en contradiction avec l'unicité d'Allah dans l'adoration. Et le cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire par rapport à l'adoration lorsqu'il dit qu'il y a des formes d'adoration intérieure et extérieure. Il explique, il dit « وَالْعِبَادَةُ الْبَاطِنَةِ هِيَ الَّتِي فِي الْقُلُوبِ » الْعِبَادَةُ الْبَاطِنَةِ الَّتِي فِي الْقُلُوبِ مِنَ النِّيَّاتِ وَالْمَقَاسِدِ وَالْخُشُوعِ وَالرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْإِنَابَةِ وَالظَّاهِرَةِ تَكُونُ عَلَى اللِّسَانِ كالذكر والدعاء وقراءة القرآن وتكون على الجوارح كالصلاة والجهاد في سبيل الله والمشي في طاعة الله عز وجل. Donc, les formes d'adoration internes ou intérieures, c'est celles qui sont dans le cœur, comme les intentions et les objectifs, les intentions et les buts. Également, l'humilité, l'amour, la crainte, hein, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de se repentir, ça c'est des adorations internes, c'est-à-dire c'est les adorations dans le cœur. Tandis que les adorations apparentes, c'est celles qui sont soit apparentes par la langue, les adorations comme le rappel d'Allah, le dhikr, le dua et la récitation du Coran, ça c'est des adorations qu'on fait avec la langue. Et également, il y a des adorations qu'on fait avec le corps, hein, des adorations physiques, et comme par exemple la salat, le djihad, le fait de marcher vers l'obéissance, et puis il y a beaucoup d'autres comme la zakat, le hajj, et ainsi de suite. Et il dit ensuite, après avoir mentionné les exemples, il dit « Wa ad-du'a ibadatun bil-lisan yuntaqu biha » والذبح عبادة فعلية ولا بد من العبادة القولية والفعلية من اعتقد من اعتقاد القلب ونيته وإخلاص والإخلاص لله في ذلك والنذر كذلك يكون عبادة قولية إذا تلفظ به ويكون عبادة فعلية بأن يفي بالنذر. Donc il explique chacune des adorations qui ont été mentionnées par le cheikh lorsqu'il dit premièrement que le dua c'est une adoration qui est faite par la langue puisque c'est des paroles qu'on prononce, de même que le sacrifice c'est une adoration gagner des actes, c'est un acte qu'on fait puisqu'on fait un sacrifice, donc on égorge l'animal, ça c'est un acte. Et il faut aussi que les adorations, donc il faut les adorations gagner verbales et des actions aussi. Il faut qu'on applique toutes ces formes d'adoration là. Il dit il y a également les adorations du cœur qui sont la croyance du cœur et l'intention et la sincérité, la pureté d'intention dans les œuvres qu'on fait pour Allah. Et le vœu pieux, an-nadhr, c'est une adoration qui est également par la parole et une adoration qui est faite dans les actions lorsqu'on met en application et lorsqu'on respecte le vœu qu'on a fait. C'est comme par exemple si quelqu'un dit « Je m'impose pour Allah de faire une aumône de, par exemple, 100 $ si, par exemple, si Allah me donne, par exemple, un enfant, mais je m'engage à donner une sadaqa pour Allah de 100 $ dans l'année prochaine, par exemple. Donc ça, c'est un nazr, c'est un vœu. Hein, si tu le fais pour Allah, eh bien, tu dois le respecter. Donc quand tu fais le nazr, tu le dis avec ta langue, puis quand vient le moment de le mettre en application et de respecter ton vœu, eh bien, à ce moment-là, tu dois l'appliquer, donc ça devient une action. Et le cheikh, il dit ensuite, hein, « كما قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين » On s'était arrêté avant la salat à l'explication du verset 14 dans sourate Ghafir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le cheikh il dit, كما قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. C'est-à-dire invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en purifiant pour lui votre religion, même si cela déplaît aux mécréants. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire sur ce verset. Il dit هذا أمر من الله سبحانه وتعالى بالدعاء أي اطلبوا من الله حوائجكم من أمر دينكم ودنياكم فهو غني كريم سبحانه وأكثروا من الدعاء أيضا فإن الله يحب ذلك وكلما دعوته زدت عنده محبة وإقبالا منه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وفي هذه الآية فادعوا الله مخلصين له الدين بهذا الشرط مخلصين وهذا فيه نفي الشرك وله الدين سمى الدعاء في هذه الآية دينا كما سماه عبادة في الآية الأخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي فهذا يدل على أن الدعاء ركن عظيم من أركان العبادة وأنه يطلق عليه عبادة من باب المغالبة في الاهتمام به قال وكما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة فهذا يدل على أهميته وأن العبد لا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى وفي هذا وهذا هو الإخلاص أما إذا دعا الله ودعا معه غيره فهذا مشرك فالمشركون يدعون الله ولكنهم لم يخلصوا في العبادة بل يدعون معه غيره من الأصنام والأنداد والآلهة والقبوريون يدعون الله ولكنهم لم يخلصوا الدعاء أيضا بل يدعون معه الموتى وأصحاب القبور فهؤلاء دعاؤهم غير خالص فهو غير مقبول عند الله ولو كره الكافرون إخلاصكم فالكافرون يعادون التوحيد والإيمان وهذه سمة الكفار إلى يوم القيامة فهم لا يريدون الإسلام ولا المسلمين وإن جاملوهم بالألسن ونافقوا معهم فهم أعداء ولا يجوز الاغترار بهم بل يجب أن يكون المسلمون على حذر منهم دائما وأبدا يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit donc que ce verset, le verset qu'on a lu 14 dans sourate Ghafir, alors invoquez Allah en purifiant pour lui votre religion, même si cela déplaît aux mécréants. Il dit ça c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'invoquer. Hein, c'est-à-dire demander les choses dont vous avez besoin au sujet de la religion ou au sujet de la dunya à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala est riche et généreux. Subhanahu. Et invoquez-le beaucoup car Allah aime qu'on l'invoque. Et à chaque fois que tu l'invoques, eh bien cela va augmenter l'amour et son acceptation, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 60 dans surat Ghafir, et votre Seigneur dit, invoquez-moi et je veux vous répondre, je veux vous exaucer. Et dans le verset qu'il a mentionné ici, il dit, invoquez Allah en purifiant pour lui votre religion, mais avec la condition que ce soit avec sincérité et pureté. Mukhlisin, c'est-à-dire vous devez purifier votre religion et invoquer Allah exclusivement et de rejeter tout ce qui est relié au shirk, le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala ou de lui donner des partenaires dans l'adoration. Donc purifier pour lui votre religion, et ici dans le verset le cheikh il dit qu'il a appelé l'invocation Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé l'invocation din, il l'a appelé din comme il l'a appelé dans l'autre verset Ibada, adoration. Dans le verset dans la surah, lorsqu'il dit Et votre Seigneur vous dit, invoquez-moi, je vais vous exaucer. Ceux qui s'enflent d'orgueil vis-à-vis de mon adoration, c'est-à-dire vis-à-vis de mon invocation, le fait de m'invoquer et de me demander. Et donc ça prouve que le dua, c'est un pilier très important parmi les piliers de l'adoration. Et c'est pour cette raison que on appelle le dua adoration, hein, pour montrer son importance et pour montrer comment le dua, il a une place très grande dans la religion. Le dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet que c'est l'adoration elle-même. Il dit « Ad-du'a huwa al-ibada ». Et ça indique son importance. Et on ne doit invoquer que Allah. Et ça, c'est la signification de Al-Ikhlas, la signification de la purification, de la pureté de notre invocation et de notre adoration, qui doit être exclusive pour Allah seul et qui ne doit être accompagnée d'aucune forme de shirk. Il dit « Amma idha da'a Allah wa da'a ma'ahu ghayrahu fa huwa mushrik ». Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala et qui invoque Allah, mais qui invoque en même temps d'autres avec lui, alors celui-là c'est un mushrik. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un il prie à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'en même temps il prie à Jésus, hein, par exemple, ou il prie à Marie, eh bien dans ce cas-là il est mushrik. Ou s'il prie à un autre prophète parmi les prophètes, hein, il invoque un autre prophète, que même si c'est par exemple quelqu'un qui prierait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dirait non, ça c'est du shirk. Tu ne peux pas prier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que l'adoration est un droit exclusif d'Allah et tu ne peux donc pas invoquer, hein, autre que Allah, même si c'est un prophète d'Allah, même si c'était Jibril alayhi salam, un des anges les plus rapprochés d'Allah. Et tu dis, moi j'adore pas une idole ou je prie pas à une idole, je prie à un ange rapproché. On dira dans ce cas-là, même si c'est un ange rapproché, wa alaykum salam wa rahmatullah, même si c'est un ange rapproché, c'est du shirk. Et le cheikh dit que les mushrikoun, ils invoquent Allah. Hein? C'est-à-dire, il ne faut pas penser que les mushrikoun, c'est uniquement des gens qui adorent que des idoles et des statues. Et quand on regarde, par exemple, comme on a dit tout à l'heure à propos des mushrikins de Quraysh, ils invoquaient les idoles, mais en même temps aussi, ils priaient à Allah. Mais le cheikh, il dit, le fait qu'ils invoquent Allah, hein, c'est pas quelque chose qui est bénéfique pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas purifié leurs invocations pour Allah seul. Donc, ils invoquent Allah, mais ils invoquent avec Allah d'autres que lui, parmi les idoles et les seigneurs et les divinités qu'ils ont inventées. Et donc, à cause de ça, leur adoration est vaine et nulle. Et le cheikh, il dit, Al-Quburiyoun, comme on l'a expliqué déjà, c'est des gens qui adorent des tombes et des morts. Ils prient à des morts. Et ils pensent que ces morts-là, parce que ces morts-là ont vécu des vies de piété ou de foi, et qu'ils ont fait des grandes œuvres dans leur vie, que à cause de ça, ça leur donne une place privilégiée auprès d'Allah, qui fait que ils peuvent yani, nous aider après la mort. Donc ils vont à la tombe de ces hommes-là et puis ils leur demandent, hein, ils leur demandent des faveurs ou des choses en dehors d'Allah. Et ça c'est du shirk aussi. Donc le cheikh explique que ceux qui adorent les tombes, hein, et qui prient aux morts, eh bien eux ils invoquent également Allah, mais ils n'ont pas purifié leurs invocations pour Allah seul. Et ils préfèrent invoquer des morts et prier à des morts. Et donc, à cause de ça, yani, le cheikh il dit, leur adoration et leur dua n'est pas pure pour Allah seul. Et donc, il ne sera pas accepté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en terminant l'explication du verset, il dit, وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, c'est-à-dire, même si cela déplaît aux mécréants, c'est-à-dire que les mushrikoun et les kafiroun, les mécréants, ils détestent votre pureté, hein, et votre adoration pure. Et donc, ils prennent en animosité le tawhid et la foi. Ils détestent la foi et le tawhid. Et ça, c'est une des caractéristiques des kuffars jusqu'au jour de la résurrection. Ils ne veulent pas l'islam, ils ne veulent pas non plus les musulmans. Et c'est pour cette raison-là que même si on les voit flatter les musulmans par leur langue et essayer d'être complaisants envers les musulmans avec leur langue, mais ils agissent d'une manière hypocrite, puisque au fond d'eux-mêmes, ils ont de la haine et ils détestent les musulmans. Il ne faut donc pas que les musulmans se sentent ou bien soient trompés par eux et par leur hypocrisie. Et il est donc obligatoire aux musulmans de toujours être sur leur garde vis-à-vis des kuffars et des mushrikin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le verset dans sourate At-Tawbah, le verset 8, « Yurudunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum ». C'est-à-dire, ils cherchent à vous satisfaire et à vous faire plaisir avec leur bouche, mais dans leur cœur, ils refusent. Hein? Donc, c'est en réalité, là, c'est la façon dont les kuffars et les mushrikines agissent envers les musulmans. Ils font semblant, hein, dans leurs paroles, qu'ils sont, qu'ils acceptent les musulmans, mais au fond de leur cœur, en réalité, ils ne sont pas satisfaits. Parce que les musulmans croient en l'unicité d'Allah. Le cheikh, il cite ensuite l'autre verset, le verset 65, dans surat Ghafir. Dans la même surah, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « Fad'u Allah mukhlisina lahuddin ». Et on l'a expliqué déjà, le cheikh dit, « Fad'u Allah, fad'uhu mukhlisina lahuddin, samma ad-du'a huna dinan, wa sammahu fil awwali ibadatan ». يعني في قوله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي. Donc dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala a désigné le dua comme étant la religion, et dans l'autre verset, il a désigné le dua comme étant l'adoration. Hein? Et on, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Ensuite, il dit وقول الله تعالى والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Donc on est arrivé maintenant à l'explication du premier verset que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité dans ce chapitre du Kitab al-Tawhid. Nous, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et au prochain cours, inshallah, on commencera avec ce verset-là et on commencera à lire son explication. Et l'explication de ce verset, il est très intéressant et très important. Donc on va, inshallah, lui donner son droit, bi'idhnillah. On s'arrête ici, inshallah. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.